Alors Dominique va peut-être commencer, comment on avait prévu. Comment on avait prévu dans l'ordre du jour?
On avait prévu un peu différemment, mais je crois qu'il faut savoir s'adapter aux circonstances. On avait tout d'abord prévu de demander à quelqu'un de faire le rapporteur, et on avait prévu plutôt un élu. Y a-t-il un élu dans la salle? Il n'y a pas d'élu dans la salle. Bon. Alors... Donc en fait, ça va être aux intervenants de prendre également quelques notes de manière à ce qu'on puisse le retraduire tout à l'heure en plénière. Mais s'il y a dans la salle des gens qui veulent bien prendre des notes également pour nous aider sur l'intervention de tout à l'heure, ce sera pas mal. On va présenter donc... Mais très brièvement, parce que ça fait déjà 2 heures que vous en entendez parler de financement solidaire avec les différents rouages, on va présenter 3 choses, dont 4 choses dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Et on va commencer par Garrigue. Et c'est Dominique Carlier qui va donc nous expliquer le fonctionnement de Garrigue. Et puis ensuite, je propose que Madame Christiane David parle du fonctionnement de l'ADI de manière assez brève, sans être trop technique. Je crois que si chacun, on se limitait à une petite dizaine de minutes, ce serait le plus profitable. Ensuite, Jean Salva vous parlera de Love Money, qui est quelque chose d'assez nouveau également pour récolter de l'épargne. Et moi-même, je vous parlerai des monnaies de réciprocité, notamment ce que sont les monnaies sales ou ce que pourraient être des monnaies équitables. Tant il est vrai qu'il y a l'expérience qui existe aujourd'hui depuis 9 ans, qui est une expérience à la fois intéressante et limitée, et qui n'est pas toujours aussi prometteuse que ses prometteurs le voudraient, pour faire très simple. Je me sens tout à fait rassuré en disant ça, je suis moi-même un des promoteurs des selles. Donc voilà, donc on commence par Garrigue.
Bonjour, je vais vous présenter brièvement Garrigue. Alors par rapport, ça complétera un petit peu ce qui a été dit en plénière tout à l'heure, puisque... On a parlé d'un certain nombre d'outils financiers qui se veulent solidaires. Garrigue, la particularité, c'est qu'il se revendique alternatif et solidaire. C'est une société anonyme coopérative, une coopérative de capital risque, c'est-à-dire de mutualisation du risque, si on peut dire, on se définit comme mutualisation du risque, alternative et solidaire. Alors pourquoi alternative, on revendique hautement ce terme d'alternatif? Parce que on veut renverser les termes du fonctionnement actuel de l'économie. Actuellement, si vous voulez, pour être un peu schématique, mais il faut l'être pour être bref, actuellement, bon, les entreprises, quand vous placez de l'argent, quand vous mettez votre argent, c'est pour avoir plus d'argent. Bon, sans trop savoir derrière ce qui se passe, donc vous placez de l'argent pour avoir plus d'argent. On renverse les termes de l'affaire, c'est-à-dire que nous, on recherche la plus-value, d'abord la plus-value sociale et environnementale, mais en respectant les règles économiques du marché. C'est-à-dire que le but, dans le rapport fin-moyen, le but c'est d'augmenter la richesse collective, c'est-à-dire d'augmenter de créer de la plus-value sociale et environnementale, et le moyen c'est le moyen du marché de vendre un service ou un produit à d'autres personnes. Voilà, c'est en cela que cette alternative est un renversement du rapport entre fin et moyen. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Alors notre enjeu, ça va être de montrer que c'est viable, c'est-à-dire que il existe une autre façon de pratiquer l'économie. C'est-à-dire que nous, c'est pas l'économie des pauvres, nous ne cherchons pas à développer une économie de pauvres, mais nous cherchons à démontrer qu'il peut exister, une autre forme de fonctionnement économique, et en particulier entre l'épargne et l'investissement, puisque nous situons sur ce créneau épargne-investissement. Alors comment notre modèle, je vais vous présenter en 5 minutes notre modèle, enfin le modèle, notre schéma si vous voulez, on ne propose pas ça comme modèle universel, mais comment notre modèle fonctionne et comment notre schéma fonctionne. Alors, donc nous allons rechercher Donc le but, c'est de placer dans des entreprises, donc qui sont ici, c'est le but final, qui recherchent une plus-value sociale. Les entreprises solidaires qui nous intéressent recherchent la plus-value sociale environnementale, c'est-à-dire du développement local, on pourrait développer ce que c'est, énergie renouvelable, commerce équitable, produits et commerce bio, insertion. Alors, autre alternativité, c'est dans l'entreprise normale, la plus schématique, c'est on va rechercher le profit financier et puis comme sous-produit, on va produire de la pollution et de l'exclusion sociale. C'est un peu schématique, mais en gros, c'est un peu ça. Et après, on laisse à l'État et aux collectivités le soin de régler le problème, de régler les problèmes de pollution et d'exclusion sociale. Nous, on estime qu'il est possible, dans l'entreprise elle-même, d'internaliser, si vous voulez, tous ces problèmes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sous-produits néfastes pour la société. C'est-à-dire que l'entreprise solidaire, pour nous, elle doit créer de la richesse sans produire de la pollution et de l'exclusion sociale. Au contraire, doit en même temps améliorer l'environnement physique et social. Alors, mais seulement, ça, évidemment, ça a un coût, hein, puisque... Bon, c'est pour ça que alors les épargnants, ce sont des personnes physiques ici qui épargnent et des personnes morales également. Il y a les deux possibilités qui donc mettent leur souscription dans Garrigue, achètent des actions de Garrigue, qui est une coopérative, une société anonyme à capital variable. C'est-à-dire on achète des actions, on peut se faire rembourser éventuellement après. On verra après. Cet argent, il va directement, de façon transparente, dans ces entreprises qui recherchent la plus-value sociale et environnementale. Et alors, l'État qui intervient quand même là-dedans, la collectivité, puisqu'elle n'a pas à réparer, les dégâts collatéraux, si on peut dire, puisqu'il n'y en a pas, elle va intervenir sous deux formes, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître l'intérêt général en appliquant une déduction fiscale aux particuliers qui épargnent, c'est-à-dire que ça leur fait une déduction de 25% sur leurs impôts, pour ceux qui paient des impôts, excusez-moi pour les autres, et à condition qu'ils laissent 5 ans dans Garrigue. Et en plus, Garrigue a obtenu la garantie Sopharis, qui garantit au moins 50% des pertes si les entreprises se cassent la figure. Donc voilà le schéma de base d'entrée, et la sortie, il va se présenter comme ça. C'est-à-dire que comment ça se passe pour la sortie? Les entreprises renvoient l'ascenseur quand ça marche. Les entreprises renvoient l'ascenseur, c'est-à-dire qu'elles reversent à Garrigue des dividendes ou des intérêts des comptes courants d'associés, qui sont des quasi-fonds propres. Et au bout de 5 ans, les salariés, alors il peut y avoir le rachat des parts que Garrigue a pris dans les entreprises, soit par le mieux, c'est les salariés qui ont un petit peu de l'épargne et qui peuvent racheter les parts qu'avait pris Garrigue au départ dans l'entreprise pour l'aider à démarrer, et il peut y avoir aussi de nouveaux investisseurs qui arrivent dans l'entreprise solidaire. Du côté des personnes physiques et morales qui ont souscrit, ils peuvent, s'ils en ont le besoin, ils peuvent retirer, au bout de 5 ans, ils peuvent retirer leur épargne. S'ils en ont besoin, c'est le principe de la mutualisation, si vous voulez aussi. C'est-à-dire que vous avez besoin de votre argent, vous le retirez, vous pouvez le retirer, sans plus-value. La plus-value, elle est faite déjà par la plus-value sociale environnementale, elle est faite par la déduction fiscale. 25% par an, 25% pour 5 ans, c'est pas mal, ça fait 5% par an. Donc, il n'y a pas de plus-value à la sortie des coopératives. Étant donné qu'il y a un partage, on ne peut pas partager les réserves, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de bénéfices, puisqu'on ne fait pas beaucoup de plus-value. Mais par contre, puisqu'on est à capital variable, on peut retirer son argent. Au bout de 5 ans, vous pouvez retirer votre argent. Mais si vous n'en avez pas besoin, je vais vous le laisser, et c'est dans la collectivité, il est bien utilisé puisqu'il est investi dans ce type d'entreprise qui crée de la richesse collective et qui sert à tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, la présentation du système. Alors, nous sommes persuadés qu'un tel système peut fonctionner. D'ailleurs, il fonctionne depuis 15 ans déjà, un peu plus de 15 ans, mais sur une petite échelle. Il peut fonctionner à une plus grande échelle. Et là, on relève le défi de Daniel Arnaudin tout à l'heure. Il pourrait fonctionner sur une échelle beaucoup plus grande, avec des enjeux financiers beaucoup plus grands. C'est un modèle équilibré et qui, dans lequel tout le monde s'y retrouve, et dans lequel on a donc avant tout la recherche de plus-value sociale et environnementale, mais du point de vue financier, ça fonctionne quand même.
Est-ce que... bon, on a bien compris, je crois, le schéma général et la philosophie, si je puis dire. Est-ce que tu pourrais donner quelques chiffres, sans nous abreuver de chiffres et sans avoir le culte des chiffres, pour revoir ce que ça représente à peu près aujourd'hui que sur...
Alors déjà, premier chiffre, l'action d'IARIC, c'est 77 euros. Donc c'est la contribution minimum. Si vous voulez acheter des actions d'IARIC, c'est 77 euros l'action. Le deuxième chiffre, c'est qu'actuellement, on a un peu plus de 300 actionnaires privés, 300 personnes... 300 personnes physiques qui font déjà d'ores et déjà fait confiance dans ce système là et une dizaine de personnes morales qui ont misé aussi sur Garrick, mais une majorité de personnes physiques et qui représentent aussi la majorité financière. Et le total actuellement épargné et replacé dans les entreprises représente 650 000 euros à peu près. Actuellement, 650 000 euros au total, c'est-à-dire, je ne suis plus en francs, moi je parle, excusez-moi, si on convertit tout le temps, c'est trop fou. Hein? Combien? 4 millions de francs à peu près. C'est souhaité. Nous souhaitons le statut d'entreprise parce que, encore une fois, d'abord, nous intervenons en capital ou en compte courant d'associé. Hein? Ça, c'est la raison technique, si vous voulez. Pour qu'on intervienne, il faut qu'il y ait un capital ouvert. Bon. Mais la deuxième raison, qui est peut-être encore aussi importante, c'est parce que notre ambition, c'est justement de montrer qu'on peut faire fonctionner le système de façon autre. Donc voilà, sinon on le ferait pas, à la limite, moi personnellement ça m'intéresserait pas de le faire, j'irais à la pêche, ça m'intéresserait pas si c'était pour essayer de montrer, ou sinon, si vous voulez, sur le plan, pas philosophique, mais sur le plan de la réflexion, si on démissionne devant le fait que l'économie ne peut fonctionner que sur le modèle libéral actuel, hein, eh bien c'en est fini, si vous voulez, c'est pas la peine de continuer. Autant alors essayer effectivement de faire que du caritatif derrière et de ramasser les morceaux, d'essayer un petit peu d'améliorer la souffrance, enfin d'essayer de minimiser la souffrance des gens, quoi. Mais si on estime que autre chose est possible, un autre fonctionnement, eh bien on essaie, et c'est ce qu'on fait. Mais ceci dit, on n'est pas complètement fermé aux associations, on l'a fait déjà. Hein. Ah ben tout à fait, mais les scopes ou les fixes, ce sont des entreprises.
Dans combien d'entreprises à peu près avez-vous des participations et quel est le montant ou le pourcentage moyen?
Alors actuellement, on a investi, Garrick a investi dans 31 entreprises exactement, 31 entreprises, avec un apport moyen de 8000 euros. Mais on essaiera de faire mieux, c'est-à-dire dans l'avenir. Bien sûr, c'est un petit peu fonction des possibilités. Quoi. On estime que maintenant, on va essayer de passer à un stade un peu plus gros, à faire entre 10 et 20 000 euros. Quoi.
Ça veut dire que vous avez quand même une disponibilité. Parce que là, une fois 3 ou 4, ça peut être
240. Oui, pardon, ça signifie donc que vous avez actuellement des fonds disponibles, parce que 8 fois 3, 24,
oui, parce qu'on vient, nous venons de faire un appel public à l'épargne, justement pour essayer de passer à la vitesse, disons, à passer une échelle au-dessus. On a réalisé un appel public à l'épargne, avec d'ailleurs visa de la COP. On a été jusqu'à demander, passer après un an de négociation avec la COV, on a obtenu qu'ils nous mettent un visa sur notre appel, ce qui donne un peu confiance aux gens, tout en mettant bien sûr dans l'avertissement qu'il n'y a pas de bénéfice à faire, que c'est très risqué, que bon, ils ont mis toutes les tout ce qu'il fallait comme avertissement pour décourager tout le monde de venir. Ils ont quand même mis qu'on investissait dans, des entreprises de solidaires. Mais donc l'appel est fait et on a récolté un peu plus. Donc.
Alors si c'est si risqué, qui vient en fait épargner là? Quelle sorte de personne ou de structure?
Justement, on a vu, c'est du capital, il y a du risque. Comme on a vu tout à l'heure, si vous voulez, la banque, et que ce soit d'ailleurs la nef qui ne me démentira pas, là aussi, Patrice qui discute, mais il ne me démentira pas, la banque n'a pas le droit de prendre de risque. L'établissement bancaire, comme il l'a dit, n'a pas le droit de prendre de risque, plus de 1%. Il n'a pas le droit d'avoir un taux de risque de plus de 1%. Donc c'est ce qui explique, c'est la raison fondamentale pour laquelle la banque n'investit pas en fonds propres dans des entreprises en création, il y a trop de risques. Nous, donc, on admet, donc il faut des organismes comme nous, mais il faut surtout des particuliers qui acceptent ce risque. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent ce risque. Bon, ça, c'est indispensable. Donc, il faut avoir un peu d'argent. Mais bien sûr, on ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'argent. Bon. Donc, mais c'est des gens qui acceptent le risque, c'est-à-dire qui préfèrent prendre un petit risque financier, mais par contre... si vous voulez, c'est toujours aussi cette alternative, plutôt que de prendre un risque environnemental et social qu'ils pourraient prendre en cherchant la plus-value maximum. Là, ils ne prennent peut-être pas trop de risques financiers, mais ils ont un risque certain, c'est qu'on arrive à un monde difficilement vivable. Enfin, moi, je ne veux pas faire un dessin. Enfin, bref. Là, ils acceptent de prendre un risque financier, mais parce qu'ils estiment que c'est un moindre risque pour l'avenir au point de vue social et environnemental. Ceci dit, ça c'est le plan d'acceptation du risque. Ceci dit, on limite ce risque. On essaie quand même, techniquement, pour que ça soit, comme l'a dit Patrick Salor, non pas du don, mais quand même de l'épargne. Et on le limite de deux façons. C'est là où intervient... parce qu'en gros, il y a un risque, si c'était purement libéral, on aurait un risque, en gros, de 20%. On aurait un risque, c'est-à-dire qu'il y a 20% des entreprises de mise qui... Il y a 20% des entreprises qui s'inscrivent à la figure... Hein, c'est même quand on fait attention, hein, quand on les prend au départ. Ce risque est trop important, et serait trop important, mais on essaie de le limiter, mais sans arriver au 1% des banques. Donc on le limite de deux façons. D'une part, on a la garantie Sofaris, qui est quand même assez importante, puisque donc il va nous garantir, s'il y a une entreprise qui se fait figure, on va être remboursé de 50 à 70% suivant les cas. Donc ça, c'est une première limitation du risque. Bon, la deuxième limitation du risque, c'est que, en fait, c'est pas le risque, c'est que comme l'État, la collectivité vous a fait une déduction fiscale de 25% sur 5 ans, vous gagnez 25%. Donc il faut, nous, pour qu'on s'y retrouve, enfin là c'est des calculs d'apothicaire, mais c'est pour montrer que le modèle est quand même viable, c'est que l'épargnant s'y retire son argent au bout de 5 ans, même s'il a perdu 20%, il a encore gagné 5% puisqu'on lui a déduit 5% de ses impôts. C'est là où le modèle tient debout et, financièrement. Ceci dit, c'est un petit calcul d'apothicaire, mais c'est pour dire c'est viable, mais ceci dit, c'est le fond du problème, c'est que ce sont des gens qui acceptent le risque parce qu'ils se rendent compte que c'est un moindre risque pour leurs enfants. C'est ceux qui ont peu d'argent. Hein.
On prend encore une ou deux questions sur Gary, après il faut qu'on passe à...
Oui, je voulais simplement savoir si on veut créer une entreprise, quelle est la marche à suivre pour faire appel à vous?
Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est que d'abord, on est issu du mouvement Cigales. Donc, vous avez entendu parler des Cigales tout à l'heure. Ce qu'on aime bien, c'est que ça commence par les Cigales. Pourquoi? Parce que les Cigales, bon, en même temps, il y a un petit investissement et il y a de l'accompagnement puisqu'il y a un groupe de personnes qui se mouillent, qui donnent un peu de leur épargne et qui accompagnent. Donc, ça accompagne, ça... Sinon, là, ça limite le risque. C'est une façon de limiter le risque, mais ça, du point de vue économique... c'est que si l'entreprise est accompagnée par un groupe humain comme les SIAL, les gens qui aident, enfin qui accompagnent, qui est le créateur de l'entreprise est toujours seul, est toujours très seul, comme l'a dit Pasteur, il faut qu'il soit entouré. Donc on aime bien ça, mais que ça, si c'est pas une SIAL, ça peut être un autre groupe humain. Ça peut être aussi, ça peut être Love Money, comme parlera Jean Salva tout à l'heure. Ça peut être une association. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ça répond à un besoin réel sur le terrain. Hein, aussi. Parce que c'est à la fois une garantie de réponse aux besoins réels des personnes, hein, et en même temps une garantie d'environnement que la personne. Donc c'est une garantie à la fois que ça correspond à un besoin et que c'est accompagné et qu'il y a un accompagnement avec des personnes. Hein. Donc on aime bien ça. Bon, ceci dit, c'est la règle générale, mais il peut y avoir des règles, il peut y avoir des exceptions. Si on trouve un projet génial avec quelqu'un qui correspond tout à fait, qui a un bon esprit partageux, enfin, qui fait ça, mais qui a une idée, qui a des compétences, eh bien, on y va. On y va en même temps. Mais en général, il y en a d'autres qui viennent parce que si on l'a trouvé génial, il y en a d'autres qui le trouvent génial. Bon. Mais bon. On n'y va jamais tout seul, parce que d'abord on est minoritaire, comme on dit, on sera toujours minoritaire. Mais donc voilà, alors il y a différentes méthodes, mais on aime bien qu'il y ait déjà un groupe humain qui l'accompagne.
Très bien. De toute la manière, on reviendra ensuite aux questions après les quatre présentations. Donc, oui, si vous voulez bien présenter, l'a dit, pareil, de manière assez brève, de manière à ce que tout le monde comprenne bien, se l'approprie en posant les questions qu'il est.
Ça va être beaucoup plus simple que Gary de parler de l'ADI.
C'est beaucoup plus classique.
C'est beaucoup plus classique. L'ADI qui veut dire, je m'entends pas moi dans le micro, on entend ? Association pour le droit à l'initiative économique. Et donc une association qui consent des prêts aux personnes qui sont exclues, oui, il me semblait pas, genre, qui sont exclues du système bancaire. Donc les personnes qui sont soit par exemple au RMI, au chômage ou même des interdits bancaires. Bon, et qui créent leur emploi bien entendu. Donc l'ADI consent un prêt solidaire dont le montant s'élève à 5000 euros. Maximum, enfin maximum, non, je dis des bêtises, dont le taux est à 6,02%, remboursable sur 2 ans. Mais à ce prêt solidaire peut s'adjoindre d'autres prêts. Prêt de développement pour quelqu'un qui a déjà été financé, prêt d'honneur pour une entreprise qui a besoin de fonds propres en plus de l'activité financée au départ, des prêts progressifs pour les personnes qui ont une petite activité, donc tout petit. Bon, il y a tout un tas de dispositifs, dont Eden, que tout le monde connaît, j'imagine, puisque les personnes qui sont au RMI, certaines catégories d'autres personnes en bénéficient. Que vous dire de plus les créateurs qui bénéficient d'un prêt de l'ADI ont bénéficié également d'un suivi tout au long de la durée du prêt, qui peut être un suivi comptable, un suivi par le chargé de mission qui a instruit le dossier, un suivi comptable par des bénévoles, des appuis marketing, juridiques, enfin un appui pour que la société puisse décoller pendant 2 ans, puisqu'on a quand même un public un petit peu difficile qui connaît peut-être pas très bien la création d'entreprise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que l'association, n'ayant pas de fonds propres, fait appel à des partenaires bancaires. Donc on signe des conventions avec des banques qui acceptent ou non le dossier. Il y a 2 comités de crédit par semaine pour accepter les projets. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais plus. Vous avez peut-être des questions à poser?
Peut-être. Aussi très rapidement quelques chiffres pour que ça nous donne l'ampleur.
Alors depuis 1990, enfin l'ADI a été créée en 90, il y a eu 16 000 créations d'entreprises, dont 2 000 dans les quartiers défavorisés. Hein, et ça devrait dans ces quartiers défavorisés monter encore plus puisqu'on a mis au point ce fameux prêt progressif qui s'adresse à des personnes qui ont déjà un petit peu commencé une activité qu'il faut aider pour sortir et Donc on fait, on a deux points dans Paris, la Fontaine au Roi et à la Goutte d'Or, où il y a des permanences, où il y a de nombreuses permanences. Et nous faisons également des permanences dans les maisons de l'emploi, hein, qui complètent l'accueil qui est fait à la DI pour les personnes qui veulent se renseigner pour une première information. Vous voulez d'autres chiffres ? Non, c'est bon. Bon, je voulais vous préciser quand même que 5 000 euros, c'est pas beaucoup. C'est vrai que nous finançons quand même des activités qui sont en général de petites activités. Mais bon, qui peuvent devenir grandes après. Enfin, on le souhaite. C'est ce qu'on veut. Alors, la petite activité, ça peut être vente ambulante sur les marchés. Elle a beaucoup de succès, celle-là. Louageurs, mais il y a également des restaurateurs. Je pense à vous qui m'avez posé la question. On arrive avec ce prêt solidaire qui est le prêt de base, augmenté d'un prêt d'honneur, plus Eden éventuellement, puisque une partie de notre peuple, de nos créateurs peuvent en bénéficier, arriver à des financements. Alors je vais parler en francs parce que j'ai pas là tout de suite le 150 000 francs à peu près, hein, ça dépasse guère ça quand même. En ajoutant donc le prêt solidaire, Eden, un prêt d'honneur. Donc ce qui permet effectivement, par exemple pour un restaurant, d'avoir un loyer, mais pas d'acheter le fonds, ça c'est certain. Et nous finançons en priorité donc le stock, le loyer d'avance, les loyers, les choses comme ça. Le prêt d'honneur finançant les fonds propres qui manquent pour démarrer l'entreprise. Personne n'a de questions à poser ? Oui, c'est un prêt personnel, effectivement.
Dans le cadre d'une coopérative, par exemple, ou d'une association, il y a toujours plusieurs personnes.
Nous finançons.
Est-ce que le cas s'est produit ou pas ?
Oui, ça se présente souvent. On a des personnes qui veulent financer des associations. C'est vrai que c'est pas toujours très facile pour nous. En fait, c'est faisable quand la personne crée son propre emploi. Hein, donc, ne peut être ni président ni trésorier, mais elle doit être dans l'association et créer son propre emploi. Donc c'est un petit peu plus difficile. Il nous arrive de financer des SARL. Bon, le plus gros, c'est quand même l'entreprise individuelle. Ça correspond davantage à notre type de client, créateur.
S'il n'y a pas de questions, moi je vais en poser une, enfin même deux. D'une part, par rapport à ce type de population et par rapport au taux d'emprunt bancaire et les facilités qui sont faites aujourd'hui, et peut-être plus facilement aujourd'hui que quand les premiers prêts de la DI se sont mis en place, 6,2%, ça paraît pas rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où cet emprunt n'est pas simplement un emprunt, mais qu'il y a un suivi, un accompagnement, et qu'on sait que ça coûte très très cher, là, les 6,2, même si ça peut être cher pour l'emprunteur, ça ne peut pas couvrir les frais. Donc quel type d'accord vous avez avec les pouvoirs publics pour arriver à ces montages qui sont quand même des montages complexes?
Oui, donc je pars de la première question sur les 6,02 qui sont en baisse, hein, j'ai connu plus élevés. C'est la volonté de Maria Nova, qui est la créatrice de l'ADI, de faire payer, c'est pas le terme, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais de considérer que nos créateurs peuvent et doivent...
Proches des emprunts bancaires
classiques. Voilà. Et ramener sur 2 ans, ça fait très peu quand même. Hein, c'est pas... Puis bon, vu le montant du prêt, et ramener sur 2 ans, c'est ce qu'on explique toujours aux créateurs qui s'en étonnent, que ça fait pas énorme. Et que de toute façon, comme une... Bon, enfin, c'est pas une bonne raison, ça. Mais c'est vrai que des fois, je le dis quand même, c'est que n'ayant pas l'accès au crédit bancaire, c'est quand même... Hein, on paye aussi les crédits que la banque consent, hein, donc. Et le suivi est particulièrement fait par des bénévoles. Hein, nous avons beaucoup de bénévoles.
Le suivi est fait par des bénévoles.
Oui. Enfin, il y a un suivi un peu du chargé de mission qui instruit le dossier, qui voit si le créateur marche bien, mais dans les détails, comptables, tout ce que peut souhaiter le créateur d'un petit peu plus particulier est fait par des bénévoles. Nous avons 650 bénévoles dans toute la France, sur Paris 65, mais la délégation comporte 27 salariés.
Les 6,5% d'intérêt sont utilisés de quelle façon ?
Il y a des salariés à payer. Hein.
Non, mais je veux savoir.
Non, mais je veux dire que je me sens pas agressée. Ce ne sont pas nos fonds propres. Hein. Nous, on a des partenariats avec la Caisse d'épargne, avec la BRED. Donc.
Non, mais je me demandais si vous réinvestissiez.
Non,
pour votre fonctionnement.
Oui.
D'autres questions ? Bien. Ben, on va présenter donc maintenant troisième chose, Love Money ou Love Money pour l'emploi. Jean, je vous laisse.
Oui, tout à fait. Oui, alors Love Money, c'est un nom qui surprend d'abord. Hein. Love Money, j'aime l'argent. Mais c'est pas ça du tout. Parce qu'on prend en France au sens premier, c'est-à-dire l'argent, et puis la vie d'argent. Bien exactement, j'ai eu l'occasion de parler de Love Money à des curés. Love Money, ils comprennent, c'est l'argent du cœur. Au Québec, justement, d'où vient l'expression, on a repris cette expression au Québec, eh bien là-bas, c'est l'argent des parents, de la famille, des amis, des voisins, des associations, des syndicats ouvriers qui mettent des sous dans des projets d'entreprise. Et donc, c'est pas j'aime l'argent, c'est l'argent vraiment affectif, fraternel. Et donc, cet esprit qu'on a voulu essayer de inventer pour la France. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, ça existe, on trouve, lorsqu'on on a une entreprise, on trouve des actionnaires, mais ça n'a rien de fraternel, ça n'a rien d'amical. Alors donc, notre démarche est la suivante, c'est de dire, autour de chaque porteur de projet, eh bien là, il y a du love money. C'est quoi le love money, je le disais ? Des parents, de la famille, des amis, des voisins, des futurs salariés, des futurs clients, des amis des amis, des voisins, des gens qui ont envie de voir le développement économique local. Donc, à partir de cette simple idée, et surtout par mon expérience, j'ai passé toute ma vie, aujourd'hui j'ai 69 ans, je suis en retraite, hein, c'est surtout Didier Salva qui a 38 ans, qui est l'animateur de l'association, eh bien, j'ai passé ma vie dans le monde de la finance, à la bourse. Au drame, aux catastrophes, la bourse, ça sent le soufre, c'est le diable. Dans le monde solidaire, on dit c'est pas possible, faut pas associer le solidaire et la bourse. Eh bien, je pense qu'on se trompe, parce qu'il y a 7 millions de personnes qui ont mis des sous dans des actions et qui ne sont pas forcément des capitalistes purs et durs. Dans ces 7 millions de personnes, moi j'estime qu'il y en a 50 ou 100 000 ou 200 000 ou peut-être 1 million de Français qui seraient prêts à mettre des sous dans la création d'entreprises. Bon, passons. Oublions ce million de Français. Et notre démarche a été pas du tout d'utiliser ce million de Français, mais c'est de faire en sorte d'utiliser autour de soi son love money. Alors donc, on a débuté avec une opération qui va être assez symptomatique, qui va décrire notre action. C'est un chômeur qui vient nous voir un jour et dit, voilà, je veux créer mon entreprise, est-ce que vous pouvez me faire un prêt de 50 000 francs ? Alors nous, c'était quoi votre création d'entreprise ? Eh bien, je veux nettoyer les gaines de climatisation, je veux faire du ramonage. Ah bon ? Alors comment on fait pour décider un dossier ? Eh bien, ce sont les adhérents. Réunis dans une salle, 10, 20, 30, 50, 100 adhérents. Et puis voilà, on énumère le projet. Et puis là, on a présenté le projet. Et dans le projet, il y a 10, 15 personnes qui ont dit, nous, moi, ça m'intéresse, ce projet, de lui donner un coup de main et réfléchir avec lui si son projet est bon et peut-être mettre des sous dans son projet. Et finalement, on a travaillé son projet et on s'est aperçu qu'au lieu de 50 000 francs, il nous fallait vraiment pour s'en sortir, tenez-vous bien, pas 50 000 francs, mais 500 000 francs. Alors donc, quand on lui a dit ça, eh bien, on a réfléchi quand même avant de dire il faut 500 000 francs parce qu'il lui fallait acheter un matériel de nettoyage qui venait des États-Unis qui vaut 300 000 francs, du matériel roulant et puis des locaux, parce que ça va vite. Hein. Et donc finalement, eh bien, on lui a posé la question, est-ce que vous avez, quel chiffre d'affaires vous envisagez faire ? Combien de personnel employé ? Oh, ben, je vais faire mon boulot, peut-être une autre personne de plus. Et puis, combien de chiffre d'affaires ? Dans 2-3 ans, je ferai peut-être 1 million de francs de chiffre d'affaires. 3-4 ans. Alors on s'est aperçu qu'il y a un créneau porteur, on a réfléchi collectivement, ici en groupe, comme un groupe de travail, comme aujourd'hui. Et finalement, on s'est aperçu que son projet était très porteur, parce qu'il nettoyait les gaines de climatisation, il y a des ce qu'on appelle maladies nosocomiales, la poussière, on respire. On n'a pas la climatisation aujourd'hui, mais quand on a la climatisation, ben ça vaut pas mieux, parce que certains traitent des élargies et finalement, bon, donc il y avait un créneau porteur et on s'est aperçu que là, il fallait effectivement l'aider à démarrer son projet. C'est pas parce qu'il n'avait pas de sous qu'il fallait pas le faire. C'est justement parce que son projet valait la peine. Et donc on a pensé, et c'est là que mon savoir-faire avec celui de Didier Salva, eh bien, de dire on peut collecter de l'argent pour créer une entreprise. Dans le Code du commerce, c'est prévu, on peut constituer, tenez-vous bien, on peut créer une entreprise avec appel public à l'épargne, à condition qu'on collecte au minimum 1 500 000 francs, je prends en francs. Et ça, c'est tout à fait faisable. Il y a tout un tas de formalités, tout un tas de bazar hein, que Dominique tout à l'heure a évoqué. Il faut un an de formalités pour la COP, pour faire appel public à l'épargne. Ça, c'était mon métier dans le passé. J'ai fait 50 opérations d'appel public à l'épargne pour des petites PME qui n'avaient pas de sous. Et ça, bon, je vais pas aller plus loin. Et finalement, il faut savoir que si on est moins de 100 personnes pour mettre des sous dans un projet, il n'y a pas d'appel public à l'épargne. Mais il faut respecter les gens qui ont mis des sous dans le projet. Il faut leur donner un certain nombre d'informations. Et c'est là que nous avons eu l'idée de faire les mêmes informations pour personnes qui créent une entreprise et pour demander justement aux Love Money, parents, amis, foyers, de donner une espèce de label sur le projet. On a étudié en long en large, il y a des perspectives. Et puis finalement, on a aidé le projet à revoir sa copie. Alors c'est vrai que... Il y en a qui n'acceptent pas, mais généralement, 95% des fois, eh bien, on accepte de dire effectivement, j'ai fait des erreurs. Et surtout, c'est des gens bénévoles, des gens de bonne volonté, des gens pas forcément des experts, c'est des gens qui apportent leur bon sens. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on travaille en équipe, et puis finalement, eh bien, dans l'équipe, il y a 5-10 personnes qui ont mis des sous. 10 personnes, mais c'est pas des capitaleries, c'est pas des business angels comme on dit, hein, ce sont des gens comme vous et moi. Alors il y a des gens qui ont mis 100 euros, d'autres 1000 euros, d'autres 4000 euros. Mais ça suffisait pas pour faire 500 000 francs, ce qui représente, je me suis perdu en euros, mais enfin bref. Et finalement, pour faire 500 000 francs, on avait trouvé avec 10 personnes environ 150 000 francs. Restait à trouver les 350 000 francs. Et les 350 000 francs qui restaient, eh bien, on a fait appel à son Love Money. Alors, il disait, c'est un tchèque, d'autant plus, hein. Il disait, bah, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai pas tellement de Love Money en France, dans mon pays, ils n'en verront jamais de sous. Et puis, détrompez-vous, vous travailliez avant quelque part, et finalement, aujourd'hui, bah, allez voir les anciens copains, allez voir les voisins, voir les amis de votre femme, qui est, elle, française, de fil en aiguille. Eh bien, finalement, on a réuni, 83 personnes. 83 personnes, alors c'est vrai, ça demandait du temps. Hein, ça demandait, d'abord pour préparer le projet, ça demandait 3, 4, 5 mois. Et puis après, pour réunir les 83 personnes, ça demandait encore 2, 3 mois, 4 mois. Et finalement, première opération, eh bien on s'est aperçu qu'il y a du Love Money, ça existe en France. Et puis finalement, aujourd'hui, eh bien, les gens qui ont mis des sous dans la première opération, eh bien, on avait prévu au départ que si ça marche pas, ils perdent tout. Ils étaient d'accord. Mais si ça marche, il faudrait dans un an, s'ils ont les moyens, de remettre des sous. C'était pas une obligation. Et puis un an plus tard, tenez-vous bien, donc en 3 étapes, de remettre des sous, encore 3e étape. Eh bien, aujourd'hui, il y a 5 ans de ça, aujourd'hui l'entreprise, eh bien, a un capital de 2 millions de francs. Il y a 100 personnes, 99 personnes qui ont mis des sous. Il emploie 18 personnes. Il va passer à 20 d'ici peu. Et il fait un chiffre d'affaires de 7 millions de francs. Il était parti de zéro, pouvait même pas payer son loyer. Donc ça, on peut dire, c'est un cas exceptionnel, unique. Puis finalement, on a répété l'opération une deuxième fois, une troisième fois, 8 fois. 8 fois, il y a 2 opérations d'ailleurs qui sont en cours en ce moment. Et finalement, aujourd'hui, on a réuni 2 millions d'euros avec près de 700 personnes. Alors c'est vrai que c'est une démarche qu'on ne parle pas dans le monde solidaire, parce qu'on dit, ça sent le soufre, là, on devient des actionnaires, et les actionnaires, bon, alors c'est vrai que les parents et la famille vont devenir actionnaires. Mais quoi de plus beau d'être actionnaire de quelqu'un qui se bat pour créer des emplois et avoir une dynamique économique locale? Moi, je crois que c'est extraordinaire. Il ne faut pas le prendre dans ce sens, dans le système capitaliste pur et dur. C'est exactement l'inverse. Alors, les gens qui ont mis des sous, alors c'est là qu'effectivement on peut faire le reproche, eh bien, les gens qui ont mis des sous, les 700 personnes, eh bien, ils ont mis des sous. Pourquoi? Parce qu'ils ont, par esprit de solidarité, parce qu'ils aimaient bien le projet, parce qu'ils y croyaient, et également parce que on leur a dit, vous mettez des sous, vous allez pouvoir les récupérer. Et si ça marche bien, eh bien, si le projet crée beaucoup d'emplois, se développe, eh bien, le projet vaudra plus cher. Si le projet vaut plus cher, le porteur de projet, ben, il va avoir un bon salaire, et puis l'entreprise vaudra plus cher. Et si elle vaut plus cher, chaque actionnaire, puis ce sont des actionnaires, les gens qui ont mis des sous, eh bien, ils auront une part qui vaudra de plus en plus cher. C'est toute la logique totale. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il fallait trouver un système que les gens qui ont mis de l'argent au départ il y a 5 ans, eh bien, puissent revendre leur participation. Et c'est là, de par mon passé, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé à la bourse, et alors la bourse, c'est pas uniquement les multinationales, il existe des tout petits marchés en bourse qui pourraient être les marchés de l'épargne de proximité, qui pourraient être les marchés de la création d'entreprises, qui pourraient être un marché solidaire d'entreprises, et finalement un petit marché qui s'appelait avant l'Orcote et aujourd'hui le marché libre. Et c'est là que tout enchaînement de toute cette logique dit, voilà, les gens ont mis des sous, il faut qu'un jour ils puissent les récupérer. Et pour récupérer, eh bien, il y a ce système de marché. On va profiter, à l'inverse, du système capitaliste pour pouvoir aider le monde solidaire à créer des entreprises. Parce qu'on va vendre les actions sur ce petit marché, qui n'est pas les multinationales, je le rappelle, un petit marché où des entreprises qui font 4, 5, 6 millions de chiffres d'affaires, emploient 5, 10, 15, 20 personnes, à condition toujours qu'elles aient des perspectives de croissance, eh bien, il y a des gens, sur ce 7 millions d'actionnaires que je disais tout à l'heure, qui sont prêts à dire, moi, je vais mettre des sous dans ce projet. Alors, il y a des sociétés, comme Andine, par exemple, qui est fait l'objet d'un atelier à côté, Commerce Équitable. Eh bien, Andine a levé 1,5 million de capital. Puis, il y a des entreprises en difficulté aussi. Alors, pourquoi des entreprises en difficulté? Alors, la solidarité, eh bien, c'est de dire, il y a des exclus. Et il faut faire quelque chose pour les exclus. On parle que ça. Il faut faire quelque chose. Il faut les aider. Bravo. C'est génial, mais bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le mal à la racine, éviter qu'il y ait des exclus? Regardez pourquoi il y a des exclus. Généralement, c'est parce qu'il y a un manque de... Ben, s'ils sont au chômage, et puis bon, il y a peut-être des cas familiaux exceptionnels, mais la majorité, c'est parce qu'ils n'ont pas de job. Et finalement, notre démarche est de dire, eh bien, si on leur venait, c'est pour l'emploi. Notre démarche, c'est pour créer des emplois, sauver des emplois, et c'est pour ça que nous aidons même des entreprises en difficulté, même des entreprises qui ne sont pas encore en difficulté et qui manquent de fonds propres, c'est-à-dire pas d'endettement, ils cherchent des actionnaires, parce que toutes les entreprises, les petites PME familiales, eh bien, elles ont comme actionnaires la famille, et quand la famille ne peut pas mettre dessous, est-ce qu'à ça figure l'entreprise? Et donc, notre démarche, c'est de dire, trouvez-vous aussi, autour de vous, du love money. Alors ça, c'est vraiment une révolution, je vous assure. Hein. Quand on parle à une entreprise de trouver son love money, il va voir son banquier, son expert comptable, son service juridique, et il dit, c'est pas possible, vous ne trouverez pas. Alors si, on va faire une note avec le façon COB, on va respecter l'esprit de protection des investisseurs, et à partir de ce moment-là, c'est une démarche donc, qui est ouverte à tous. Alors notre objectif, on s'est aperçu simplement que sur 100 micro-projets, il y a environ 10 micro-projets, 100 micro-projets qui resteront toute leur vie aujourd'hui grâce à les financements de petits projets, 50, 100 000 francs, et il faudra les rembourser, alors que dans notre cas, il n'y a pas remboursé, c'est des gens qui sont associés, qui prennent le risque de tout perdre. Et puis finalement, eh ben, ça va permettre à donner une autre dimension. Alors je disais tout à l'heure, sur 100 micro-projets, eh bien, on estime dans l'association qu'il y a au moins 10 micro-projets qui pourraient avoir une dimension de créer... la moyenne des créations d'emplois pour les micro-projets, c'est environ 1,5 emplois. Donc sur 100 micro-projets, ça ferait 150 emplois. On estime que sur 10 micro-projets, il y a 10 micro-projets sur 100 qui pourraient créer à eux seuls entre 10 et 20 emplois en 2-3 ans. Ça veut dire à eux seuls, les 10, ils vont en faire le double des autres. À partir de ce moment-là, c'est une démarche tout à fait nouvelle, bien sûr. On a du mal peut-être à comprendre quand on l'entend pour la première fois. mais je vous assure qu'on a fait aujourd'hui donc 8 opérations, il y a 70 emplois qui ont été créés. C'est vrai que notre démarche elle est faite totalement, les gens qui mettent des sous, ça ne transite pas par l'association, les gens le mettent directement dans l'entreprise. Quelqu'un crée une entreprise ici, eh bien il faut mettre, faut faire une structure juridique en SA, société par action, et finalement les gens vont mettre de l'argent dans la SA et pas donner les gens de l'argent au nom du porteur de projet. Voilà, donc c'est une démarche qui surprend, mais donner la chance à tout un chacun d'avoir des ambitions et si son projet le mérite, sinon on ne sait pas faire. Les petits projets en unipersonnel, en SARL, on ne sait pas faire. Il y a d'autres structures qui sont bien équipées pour ça et qui ont un savoir-faire. Donc notre objectif, c'est simplement de donner le goût d'entreprendre avec de l'ambition qui aujourd'hui tend à s'éteindre.
Bien.
Voilà, alors il y a peut-être quelques questions, je suppose.
Et peut-être on pourra laisser poser des questions sur des points précis, parce que je vois que vous êtes intarissable et passionné, ce qui est formidable, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui, certains points du système ne leur apparaissent pas clairs et ont besoin de poser des questions plus précises.
Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous avez des critères concernant soit les porteurs ou les entrepreneurs, soit le type de l'entreprise? Garrig, bon, il y a une notion de plus-value sociale qui intervient. Adi, c'est plutôt... est-ce que vous avez des critères de cet ordre-là?
Tout à fait. Critères, il y a que le seul critère et unique, c'est avoir des perspectives de croissance continues. Alors ça, c'est pas tous les projets. Il faut que l'entreprise puisse continuer à grandir au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, c'est ouvert à tout type de projet sans exception, à condition vraiment qu'ils remplissent cette phase de croissance. Mais tout le monde, tout un chacun peut aller dans ce sens. Ça peut être également une entreprise qui est financée par l'ADI ou par Garrig ou par d'autres qui est à bout de souffle. L'ADI a financé au maximum, l'entreprise veut continuer à grandir au bout de sa deuxième ou troisième année, eh bien on pourrait très bien l'utiliser, on pourrait avoir une synergie. Garrig, pareil, on en a parlé déjà avec Dominique, un jour ou l'autre, il y aura forcément des opérations en duo. Donc tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait, aujourd'hui on se cantonne, c'était pour clôturer le débat, on se cantonne avec des entreprises, mais on ne sait pas financer les entreprises avec de l'ambition, c'était pas tout à fait ses propos, mais c'était son esprit, eh bien, il faut effectivement réfléchir autrement, et nous, au bout de 5 ans, on commence à percevoir une piste. Je ne dis pas qu'on a tout résolu, mais je pense qu'il y a un travail d'équipe et on souhaite qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent travailler avec nous et faire des opérations de création d'entreprises ambitieuses.
Eh bien, merci. Une dernière question.
Est-ce que vous faites du suivi de projet aussi? Et quelle est la composition des membres de votre structure?
Oui, la structure, tout le monde est bénévole. Hein, sans arrêt, il y a que des bénévoles. Et à la limite, le problème des bénévoles, c'est bien, mais il y a le loyer, le téléphone, et ça, on a du mal à payer. C'est vrai que moi, j'y croyais à ce concept et j'ai payé beaucoup de ma poche. Aujourd'hui, je suis exempt financièrement, bon, retraité, mais il y a ma femme qui dit arrête de payer, ça va. Alors donc, le suivi. Eh bien, effectivement, un projet arrive. Je l'ai dit tout à l'heure très rapidement. Bon, il est brut de coffrage. Il y a une idée qui vient. Il y a parfois même des gens qui viennent simplement avec une idée, et puis on commence à structurer avec 10-15 personnes bénévoles. Alors il faut que le porteur de projet attire ces 10 ou 15 personnes et soit vraiment passionné son propre projet. Alors donc on va l'aider à faire ce qu'on appelle un business plan, nous on appelle ça une note façon com, un document dans lequel il va mettre 3, 5, 6 mois, 8 mois à établir, ça ne va pas se faire en 5 minutes, et puis ensuite une fois qu'il a on va l'aider ensuite à collecter l'argent, on va lui conseiller, on va lui dire voilà, allez voir vos parents, la famille, les amis, et puis ensuite, lorsqu'il a récolté les sous que l'entreprise démarre, et bien dans 3, 4, 5 ans, jusqu'à ce que la société monte au marché libre, c'est-à-dire que les gens puissent revendre leur participation, et bien on va les suivre jusqu'à ce moment-là. Après, liberté totale.
Merci. Eh bien, c'est à moi d'intervenir maintenant. Donc, je vais vous parler en deux mots de l'association pour des monnaies équitables que je représente, qui ferait mieux de s'appeler Association pour un usage équitable des monnaies, qui a trois champs d'action. D'une part, le commerce équitable. D'autre part, qui a fait l'objet d'un atelier ce matin, les finances solidaires, dont nous sommes en train de parler maintenant et qui prennent des formes différentes. Et d'autre part, les monnaies affectées. Les monnaies affectées, vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est qu'un chèque déjeuner, par exemple. Il y a une autre monnaie affectée qui est arrivée en France il y a maintenant 9 ans, qu'on appelle les monnaies selles. Les monnaies selles, c'est donc un système d'échange local, un système d'échange basé sur une monnaie interne, avec un principe qui est simple. Je vous donne le grand principe. Les personnes qui arrivent, des personnes physiques qui arrivent, voient, on leur donne un numéro d'adhérent. Ce numéro d'adhérent correspond à un numéro, comme un numéro de compte bancaire, qui est égal à zéro. Donc, tous les adhérents arrivent avec une unité de compte qui est à zéro. Et la monnaie est créée et détruite au fur et à mesure des échanges. C'est-à-dire que quand un adhérent rend un service à un autre adhérent, il voit son compte crédité, et quand il demande un service à un autre adhérent, il voit son compte débité. Avec un principe de base, je dis bien un principe de base, il est beaucoup plus difficile dans la pratique de le faire respecter que de l'énoncer, c'est que la totalité des comptes, quand on fait la somme des comptes, doit être égale à zéro. La somme des débits doit être égale à la somme des crédits, de sorte que la réciprocité, l'équité soit respectée. Donc voilà le système. Alors vous me direz, mais comment est-ce que ce système peut fonctionner, puisque on sait qu'une monnaie, c'est bien un support qui sert à faire l'échange. Mais généralement, une monnaie, c'est également une réserve de valeur. C'est-à-dire que avec une monnaie nationale, officielle, communautaire qui est dans ma poche, c'est une réserve de valeur. Je sais que demain, elle aura une valeur, et plutôt une valeur supérieure, donc tous les mécanismes bancaires, qui me garantissent que je pourrai l'utiliser. Dans ce système, qui est un système entre particuliers, encore une fois, où il ne s'agit pas de création d'emploi, c'est en dehors du terrain, strictement parlé, économique. C'est en dehors du raisonnement par l'emploi, c'est en dehors de raisonner par un terme de croissance, mais simplement par rapport à un constat qui a été fait, pour faire simple, des dégâts de la mondialisation et de l'ultralibéralisme, arriver à mettre en place des mécanismes qui permettent à chacun de pouvoir participer. Et quand je dis à chacun de pouvoir participer, la plupart des selles fonctionnent avec une grande volonté de mixité sociale, c'est-à-dire que l'on ne demande rien aux adhérents, il n'y a rigoureusement aucune condition d'entrée. Par conséquent, bien évidemment, ce sont les gens qui, généralement, n'ont pas beaucoup de sous, qui sont le plus intéressés. Tout simplement parce que, je veux dire, si on a des euros plein les poches, c'est extrêmement pratique, les euros, et il n'y a pas besoin d'inventer un système aussi complexe. Donc, là, je vous ai dressé vous réexpliquer, vous rappeler ce qui était un sel sur un plan sur un plan théorique. Maintenant, comment ça se passe dans la pratique? Ben, on commence à avoir un petit peu de visibilité puisque le premier sel est né en 94, fin 94, et nous sommes maintenant en 2003. Au cours de cette période, on a vu apparaître en France plus de 500 sels. Aujourd'hui, il y en a moins de 300 qui sont en fonctionnement. Il y a une période, c'était simplement il y a 3 ans, où il y avait 2 sels de plus de 500 personnes et 1 sel de plus de 600 personnes. C'est-à-dire déjà une organisation relativement complexe. Avec cette organisation complexe, évidemment, le nombre des échanges qui s'effectuent est plus important et les services que peuvent se rendre les adhérents sont plus importants et par rapport aux carences du monde actuel, c'est plus important que si c'est un très petit sel où il y a 10 ou 20 personnes, où là il sera difficile de trouver une circulation entre les différentes personnes. Donc quand on regarde aujourd'hui comment ça se passe, on se dit c'est une idée formidable qui a démarré à peu près dans tous les pays d'Europe en même temps, qui se sont développés à peu près à la même vitesse, notamment entre l'Allemagne et la France, à peu près à la même vitesse, mais qui engendre les mêmes conséquences. C'est-à-dire que la pérennité du système devient difficile parce que les mécanismes de réciprocité n'arrivent pas à se mettre en place. Alors comment est-ce que ça ne se met pas en place? Lorsqu'on entre dans un sel, outre des offres et des demandes, qui sont publiées dans un catalogue régulièrement, on signe une charte où on s'engage à ne pas quitter le sel avec un compte débiteur. C'est un engagement strictement moral. Pour une raison ou pour une autre, soit que les autres adhérents ne fassent pas appel à vous, soit que l'on ait des problèmes psychologiques qui fait qu'on ait des rapports avec les autres extrêmement compliqués, ce qui arrive dans les selles, il y a encore une fois c'est ouvert à tout le monde et il y a de tout, ça ne fonctionne pas, soit que l'on déménage, on va ailleurs et ça ne peut pas fonctionner. Donc on arrive au bout d'un moment, si on n'est pas relativement vigilant, s'il n'y a pas tout un tas de mécanismes à mettre en place, avec uniquement des comptes créditeurs. Et à ce moment-là, le jeu de la réciprocité devient difficile et ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, le dynamisme tombe. Donc bien évidemment, tous ces mécanismes comptables ne sont pas là pour autre chose que pour stimuler les échanges, les services que se rendent les personnes entre elles. Mais en même temps, si on ne les active pas de manière, si on ne met pas en place, en fait, toute une panoplie d'outils qui ont été mises au point par différents salles, il y a eu tellement de salles, il y a eu tellement d'expériences, et il y a aujourd'hui à disposition toute une panoplie d'outils pour faire en sorte de stimuler les échanges et de ne pas creuser les comptes de certains adhérents, ça ne peut pas tellement marcher. D'autres, on s'aperçoit également à l'usage que tout cela demande énormément de travail et que dans la plupart des selles, les fondateurs où les bénévoles s'épuisent au bout de 2-3 ans. Et une fois qu'ils ne sont plus là, le dynamisme, le sel en question, commence à faiblir. Et c'est très grave s'il faiblit, parce que ça veut dire que des gens qui ont rendu des services à d'autres et qui ont donc un compte créditeur relativement important, si l'association se casse la figure, ils ne vont pas avoir de retour. Donc, en fait, de système de réciprocité, ça ne fonctionne pas. Et actuellement, moi, je fais partie, mais je suis tout à fait minoritaire dans actuellement au mouvement de, dans la mouvance sel où il y a des tas de caractéristiques différentes de ceux qui disent il y a besoin de structurer la chose en mettant un certain nombre de garde-fous beaucoup plus costauds que ce qu'on peut mettre de manière tout à fait spontanée et simplement avec de la bonne volonté la plupart de celles qui ont émergé jusqu'ici. Sans ça, on va voir à la fois cette belle idée dans laquelle il y a des réalisations extraordinaires et dans laquelle on trouve des individus dont le mode de vie change vraiment. C'est pas parce qu'on est dans un seul qu'on trouve un emploi, non, puisque c'est pas le but du jeu. Par contre, on peut retrouver une reconnaissance sociale et un moyen de se rendre utile à soi-même et aux autres qu'enlève une société du tout marché. Donc par rapport à cette réflexion, l'âme actuellement porte, parce qu'elle est quasiment seule, un projet qui s'appelle Maison du Sel, dont ceux qui étaient ce matin dans cette salle ont entendu parler, qui est un projet relativement lourd, en utilisant cette monnaie sel non seulement entre des individus, mais également entre des associations. Mais ça veut dire, là, on passe tout à fait à une autre échelle. Ce ne sont plus les selles que l'on a connues en France depuis 1994, parce que ça veut dire des locaux, des salariés, des permanents. Enfin, ça devient. Il y a aussi une logique d'entreprise. Voilà.
Quel est le pays, enfin, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ça s'est développé plus qu'en France, ou est-ce que ça a pris plus d'extension, ou ça s'est raffiné, enfin, voilà.
Il y a deux pays mythiques par rapport au sel. Le premier, c'est l'Australie, qui fonctionne assez grosso modo comme la France, mais le plus gros sel, à un moment, avait 2000 adhérents, et dans ces 2000 adhérents, il y avait un grand nombre d'agriculteurs bio. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette mouvance est née plutôt dans les milieux écolos. Et les agriculteurs bio, ils font une marge extrêmement faible, ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, en arrivant à avoir de la main-d'œuvre, et contre des unités sel, ils arrivaient à s'ouvrir un marché comme ça complémentaire. Ça, c'est un des pays mythiques, mais c'est lié à tout un mouvement post-hippie d'un coin bien particulier de l'Australie, et si ça n'avait pas été un sel, ça aurait été une coopérative d'un autre type qui se serait montée. Le deuxième pays mythique, c'est l'Argentine. En Argentine, il s'est passé la même chose que ce qui s'est passé en France la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, cette gestion de la comptabilité, à partir du moment où il y a beaucoup de transactions, quand il y a très peu de transactions, un petit tableur tout simple, ça va très bien, c'est pas compliqué. À partir du moment où il y a beaucoup de transactions, c'est comme dans une banque, hein. Entre un bon d'échange sel et un chèque, il y a guère de différence. Et il faut en taper à l'appel, il faut arriver à les gérer. Comme ils n'arrivaient pas à les gérer d'une part, et que d'autre part ils sortaient d'un pays qui était qui avait connu un régime particulièrement dur et qu'ils n'aimaient pas beaucoup les fichiers en tout genre, ils ont imprimé du papier monnaie. En imprimant du papier monnaie, à une époque ça a servi de monnaie de substitution. Mais cette monnaie de substitution, évidemment, avait une moindre valeur que le dollar américain, par exemple. Donc, ce qui était recherché, c'était quand même du dollar américain. Alors, bien sûr, ils étaient sur la même idée que tous les sels, sur une idée de solidarité, d'entraide, etc. Mais quand on est dans la lutte pour la survie, ça fonctionne pas si bien que ça. Je veux dire, sans ça, on rigolerait plus dans les bidonvilles, quoi qu'on en dise. Ça ne fonctionne pas si bien que ça. Ce qui fait que, en fait, ça, dans ce que j'ai vu, moi, les témoignages directs quand j'ai été apporté à l'IRE l'année dernière, c'était plutôt, ben, ça commence à servir de pauvre monnaie pour de pauvres gens. Ou alors, je vais chercher quelque chose sur un marché, seul, pour le revendre en francs. Et à nouveau, on n'est plus dans la réciprocité. Donc les mécanismes de réciprocité dont je vous parlais tout à l'heure, ils ne sont pas si simples que ça à faire. C'est pas en un prix, enfin, à mon humble avis, imprimer du papier monnaie, ça ne résout pas la question.
Il y a peut-être des questions un petit peu à poser. Voilà.
Entre les différents sels, surtout en France, est-ce qu'il y a de relations? Est-ce que les gens peuvent échanger entre 2, 3 ou 4 sels? Si oui, j'aimerais bien savoir votre expérience. Et sinon, pourquoi pas créer des synergies entre les différents sels?
Alors ça, c'est formidable parce que c'est la question que tout le monde pose dès qu'on en entend parler. Dès qu'on entend parler du sel, on dit, mais c'est formidable, sur un petit groupe. Bon, on va pouvoir le faire sur 300. Mais si c'est sur la France entière et qu'il y a 300 groupes, eh ben ça va être vachement plus riche. Et c'est là qu'il y a un énorme plantage de raisonnement. Et en fait, d'une certaine manière, il faut être passé par un sel pour le comprendre. Je m'explique. J'ai insisté tout à l'heure sur le système de réciprocité. D'accord ? On démarre à zéro, on ressort à zéro, et c'est une entraide entre les personnes. À partir du moment où vous êtes dans un système ouvert, s'il y a plusieurs selles, c'est un système ouvert, la comptabilité devient beaucoup, beaucoup plus compliquée pour savoir qui a donné quoi et qui a pris quoi. Ce n'est pas impossible, c'est possible, et certains le font. C'est un casse-tête chinois terrible. Mais certains y arrivent. Il y a quelques selles qui y arrivent. Par contre, ce que l'on a vu très souvent, et un grand nombre de selles sont en fait morts comme ça. Comme ils n'avaient pas localement des ressources assez propres, ils ont été chercher plus loin les ressources. Ils ont été se mettre avec d'autres selles. D'accord ? Le sel le plus gros a fini par absorber le sel le plus petit. Ou alors, ce qui s'est passé à l'époque où moi j'étais dans le sel de Paris, tous les sels de banlieue quasiment avaient un gros déficit vis-à-vis du sel de Paris, tout simplement parce que les gens de banlieue viennent à Paris, mais les Parisiens ne viennent pas en banlieue. Donc le système de réciprocité ne marche pas. Donc effectivement, ce sont des choses qui sont possibles sur des sels qui sont extrêmement bien assis. C'est à la fois la voie de la facilité apparente et en même temps celle d'une grande difficulté.
Bonjour, je fais partie de celle de Paris.
Alors ça, je sais, ça.
J'ai trois questions, monsieur Arbel et Marvel. Pardon, monsieur Bertrand, voilà. La première question. Est-ce que vous faites partie des anciens de en France, d'abord, hein? La deuxième question, est-ce que vous avez des adhérents dans l'association AM? Est-ce que vous savez combien d'adhérents? Et la troisième, que je n'ai pas compris parce que je suis long, et quels sont les suppôts que vous faites à la maison du sel autant que AM? Merci.
Monsieur Ernesto Salazar, je me souviens parfaitement votre nom. Ça fait 2 ans que vous me cassez les couilles. Je n'ai pas envie de vous répondre. Ceci dit, donc, ce que vous pouvez voir, c'est que dans l'économie solidaire, on peut être vachement solidaire. D'accord ? Je réponds pour la salle sur les questions. Dans l'association AM, il y a 2 façons d'être adhérent. Association pour des monnaies équitables, 2 manières d'être adhérent. On peut cotiser soit en francs, soit en temps. Et il y a des adhérents en temps. Tous les adhérents ne cotisent pas en francs. Si je fais partie d'un sel, j'ai fait partie du premier sel d'Ariège que j'ai contribué à fonder. J'ai fait partie du sel de Paris que j'ai contribué à fonder et dont j'ai assuré la présidence quelque temps. Et j'ai fait partie de la maison du sel, dont j'assume temporellement la présidence, tant il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui assume cette fonction. Voilà, merci.
Bon, alors on va revenir un petit peu sur l'ensemble des questions, toutes les opérations, parce qu'il est 6h10, là. Oui. Dans 5 minutes, ça sera terminé. C'est une question générale. Voilà.
Oui, c'est plutôt une question générale. moi, je trouve qu'on a effectivement là eu, entre la plénière et ici, on a eu quand même un panorama assez large de tout ce qui était possible dans les finances solidaires, et c'est assez riche. Par contre, ce que je trouve qui est dommage, c'est que sur le terrain, on ne sent pas la possibilité d'avoir accès facilement et de façon lisible à ces outils. Et je m'interroge à comment pouvoir faire en sorte qu'il y ait des plateformes partenariales. Alors, je sais qu'il y a certaines initiatives qui se sont mises en place, mais qu'il y ait des plateformes partenariales de ces outils financiers et d'accompagnement qui permettent vraiment pour un créateur d'avoir une espèce de pôle ressources un peu unique, parce que sinon il ne va pas aller voir 5, 6 à la fois. Enfin, je veux dire, le lien direct avec les gens sur le terrain, je trouve qu'il n'est pas évident. Pour être sur le terrain, je sais qu'il y a des gens qui galèrent, qui ne trouvent pas, alors qu'il y a des ressources. Voilà. Alors, comment ça se joue?
Donc en deux mots, il y a la BFS qui a commencé à se mettre en place, mais ce n'est pas ça. Vous dites en règle générale, les créateurs ont des grandes difficultés à découvrir les différentes associations et ce qu'elles peuvent apporter. Tout à fait. Je crois que c'est un constat qu'il va falloir mettre en conclusion dans notre débat, mais il y a certainement d'autres questions. Je crois qu'il n'y a pas de solution à apporter. Là, si peut-être, Dominique.
Oui, enfin, il y a quand même maintenant une connaissance un peu plus générale des outils. Bon, on a cité, on a vu les plateformes d'initiative locale, les PIL, bon, qui sont quand même maintenant un peu structurées, qui connaissent les gens. Il y a les boutiques de gestion qui sont décentralisées, qui ont des noms différents dans différents départements. Il y a quand même, ça commence quand même déjà un peu à se savoir, hein, oui, à se connaître. Hein? Oui, oui, Finance Sol ne fait pas de l'accompagnement, mais un peu orienté. Ceci dit, il y a quand même une difficulté de fond quand même, sur laquelle je vais mettre le doigt. C'est que c'est tout l'ensemble des finances solidaires est un domaine très fragile encore, très petit et fragile. Donc il ne faut pas se faire trop d'illusions il ne faut pas laisser les porteurs de projets se faire trop d'illusions, parce que finalement ce système-là se montre assez sélectif, même très sélectif. Peut-être quelquefois plus sélectif que chez les enfants. Pourquoi? Parce que justement, ils sont très faibles, très, très petits et désireux de faire la preuve, peut-être trop désireux de faire la preuve de sa viabilité dans un système qui est dur, dans un système global qui est dur et qui est dur pour les petits et pour ceux qui n'ont pas une compétence pointue, quoi. Et ça, c'est une des difficultés importantes. C'est pour ça que, quand même, moi je signalerai, je reviendrai quand même sur le problème. C'est un problème général, là, pour tout. Mais de ce point de vue-là, il y a deux types de structures quand même qui sont abordables. C'est d'une part la structure type ADI qui... pour les tout petits porteurs qui acceptent de prendre quelques risques parce que c'est peu d'argent, c'est de l'argent qui est un petit peu dérivé du circuit bancaire, bon, et donc qui va pouvoir s'investir. Et il y a un deuxième point, c'est effectivement l'argent des particuliers qui accepte de risquer sur un coup de cœur. De risquer leur argent sur un coup de cœur, même si le projet n'est pas fiable, idéal sur le plan économique, sur le plan financier économique. Je vois dans le système des cigales, par exemple, on se décide souvent, parce que c'est des petites sommes aussi, et qu'on peut risquer son argent quand on en a un peu, on se dit, ça c'est vraiment, le porteur nous paraît particulièrement, pas sympathique, mais méritant, il est volontaire, il veut s'en sortir, on va lui donner une chance, même si on sent qu'on a une chance sur deux de perdre son argent. Bon. Et ça, c'est effectivement, pour moi, ça sera le mot de la fin, il n'y a que des particuliers qui peuvent le faire. Une organisation ne peut pas faire ça. Il faut bien se mettre dans la tête qu'une organisation, qu'un organisme ne peut pas être solidaire comme des personnes. Ça, c'est sûr. une organisation ne peut pas risquer sa survie sur des projets. Bon, alors que une personne peut risquer une partie de son épargne quand il arrive un peu d'argent, parce qu'il trouve que ça vaut la peine. Parce que même s'il y a échec, sur le plan humain, ça ne sera pas forcément un échec. Même sur on aura créé une relation avec une personne, il y aura cet aspect relation, lien social qui sera fait. Celui qui a apporté des capitaux va un peu de son épargne va avoir appris en retour beaucoup du contact avec le créateur, parce que ça sera une personnalité qui lui a rapporté avec des idées, avec du dynamisme, qui a rapporté quelque chose. Et même si son projet ne tient un an ou deux, tout le monde aura progressé. On n'aura pas avoir peur de l'échec. En France, souvent, on a peur de l'échec. L'échec est souvent rédhibitoire, surtout pour les organismes bancaires.
Mais la question, madame, c'est comment me dire, moi, j'ai un projet, eh ben, je vais voir une boutique de gestion, ils vont pas forcément envoyer sur l'ADI ou sur les cigales, et encore moins sur Love Money. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de détection du projet, d'une part, et d'orientation. Et Financeur donne un label, mais ne reçoit pas des porteurs de projets. Donc, il y a un problème. Oui, alors nous aussi.
Je voudrais rajouter que, contrairement à ce que dit Dominique, dans 8 cas sur 10, les projets qu'on finance ne trouvent pas de financement bancaire, hein, donc à la nef en tout cas. Et je crois que c'est quand même la même chose pour Garrigue. Donc soyons pas trop pessimistes quand même. Je crois que ce qu'on fait, ça. Non, mais forcément. C'est forcément des projets viables économiquement, mais je crois que la valeur ajoutée qu'on y amène, c'est quand même le fait de s'y intéresser, alors que d'autres ne s'y intéressent pas, ne regardent que les critères financiers de premier abord. Et ça, c'est aussi grâce à la mobilisation d'épargnants solidaires et de bénévoles sur le terrain, etc. quoi. Ne crachons pas dans la soupe.
Il y a combien de porteurs de projets ici dans la salle qui connaissaient pas la nef, je suis sûr, hein. C'est évident, monsieur, enfin, je suis en demandé à lever la main. Donc, il y a vraiment une redirection à faire, une structure. Nous, sur le site Love Money, on a un site, hein, c'est lovemoney.org. Eh bien, on a mis tous les liens possibles, imaginables, avec les associations. Mais ça pose un problème. Le problème, il y avait FICA à un moment qui orientait. Hein. Eh bien, je pense que c'est un manque, ça, aujourd'hui. Nous, quand FICA a fermé, on a mis. C'est une structure que vous téléphoniez et puis vous guidez plus ou moins sur la bonne orientation. Oui, la PCE, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Nous, on a rassemblé sur notre site tous les liens possibles avec toutes les associations, mais ce n'est pas suffisant, c'est évident. Hein. Alors, autre chose, moi, je pense qu'il y a un problème également pour les associations elles-mêmes, en ce qui nous concerne, et je pense. L'essai, les pigariques, c'est le problème des structures lourdes, c'est-à-dire le financement du loyer, l'électricité et des locaux, bien sûr. En ce qui nous concerne, nous, on a mis une suggestion, c'est de dire il faudrait une espèce de cité de la création d'entreprise, cité solidaire, où les gens viendraient, et là, il y a une espèce de guichetier qui dirait aller à droite, à gauche. C'est peut-être une solution, hein, je ne dis pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, c'était envisagé à un moment, je ne sais pas si c'est FICA ou c'est Finansol. Il y a une structure solidaire qui avait créé, du côté de Belleville, avait envisagé de faire une structure dans laquelle on recueillerait tout ça. Apparemment, c'est tombé à l'abandon. Ben voilà, ben c'est tout comme.
Je voulais intervenir un peu à deux titres, puisque je suis animateur du CEL de Paris, mais je suis aussi créateur d'entreprise, puisque j'ai créé ma propre entreprise. Alors, en ce qui concerne le CEL de Paris, d'abord, je voudrais exprimer mon désaccord sur la réponse triviale qui a été donnée par Albert Bertrand à Ernesto Salazar. Bon, c'est un peu chaud comme réponse. Bon, cela dit, au niveau des CEL et du CEL de Paris en particulier, ce que j'apprécie, ce que je trouve très, très intéressant et que peut-être tu as exprimé de manière un peu négative en insistant peut-être un peu trop sur les difficultés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un espace grandement ouvert pour les possibles. C'est-à-dire qu'on arrive à lancer des projets, à prendre des initiatives soi-même, et ça c'est très important pour la construction de l'individu. Si je me place en tant que créateur d'entreprise, je me suis arraché les cheveux pour arriver à faire vivre mon entreprise. Bon, c'est une entreprise en nom propre, c'est donc une structure très légère, qui existe encore après 12 années, donc je ne m'en suis pas trop mal tiré, mais il y a un vrai problème là que je crois sur lequel il faut réfléchir, parce que les solidarités doivent s'exprimer à mon avis à ce niveau-là, c'est l'imbroglio et la complexité de l'administration d'une entreprise. Vous avez parlé des crédits bancaires. Pour avoir un crédit, heureusement qu'il y a des spécialistes comme vous, comme des associations qui sont spécialisées, mais sur le fond, on ne devrait pas avoir besoin de tant de spécialistes dès qu'on a un projet. Sur les associations, pour avoir des subventions, vous en avez parlé ce matin avec la Maison du Sel par exemple, bon, c'est vrai que c'est un imbroglio incroyable pour obtenir des subventions, ce qui fait que les associations qui arrivent à vivre, ce sont celles qui ont en leur sein un spécialiste qui sait porter les valises et les dossiers aux bonnes adresses au bon moment, quand le gouvernement n'a pas encore changé ou quand il vient juste de changer, etc. Bon, et ça c'est une réelle difficulté pour l'entreprise, qu'elle soit au niveau, on va dire, très coopératif, associatif, comme dans les régies de quartier ou les SEL, ou au niveau de l'entreprise, on va dire, plus commerciale, plus incluse dans un système économique traditionnel. Voilà ce que je voulais dire.
Bon, je voudrais faire un bond simplement. Vous avez créé votre entreprise en nom personnel. Je déconseille systématiquement d'être en nom personnel. Pourquoi ? Je vous dis tout de suite, j'ai vécu ça. J'avais monté une librairie papeterie il y a 20 ans en arrière. J'ai eu des problèmes, j'ai perdu ma femme, etc. Et un jour, pour un crédit de 50 000 francs qui était dépassé, une autorisation de découvert de 50 000 francs, je suis passé à 60 000 francs, 10 000 francs de plus, parce que j'avais déjà un accord de principe, mais pas écrit. Eh bien, ils m'ont tout rejeté, et je me suis retrouvé, à cause de ça, en redressement judiciaire, et on a vendu mon pavillon, parce que j'étais en nom personnel. 60% des porteurs de projets en France sont en nom personnel. Alors là, c'est un cri d'alarme, un cri d'alerte. Surtout, ne soyez pas en nom personnel. Je profite de ça pour vous dire, faut pas.
Ce que l'on conseille à nos créateurs, c'est la première année en entreprise individuelle, et si ça marche bien, changer après. Mais la première année, on pense que c'est pas mal.
Oui, moi je voulais dire, au niveau des projets et des financements, moi je suis membre du SEL de Paris et des Biocop Montreuil Robinson. Et Robinson, les nouveaux Robinson, qui est un des premiers supermarchés bio à Paris, fait 30% de bénéfices par an. Et donc, les Biocop sont actuellement, il me semble, le premier tissu associatif économique opérationnel de France. Et nous avons des partenaires comme la Nef ou des Garrigues, et beaucoup de particuliers, dont les Biocop qui sont en même temps consommateurs et producteurs, ils se mélangent et ça fait un réseau de synergie économique et éthique au niveau de l'écologie, comme on traite ces travailleurs, qui fait que les choses avancent et que ça marche très bien. Maintenant, s'il n'y a pas de synergie entre consommateurs et acteurs au niveau économique comme dans tous les niveaux, ça ne peut pas marcher. Et les Biocop sont, à ma connaissance, un des meilleurs réseaux de distribution d'alimentation biologique en France. Il faudrait favoriser ça dans tous les domaines, les énergies renouvelables, la culture, etc. Et les financements viennent parce que l'ANF est là, les cigales sont là, et même les banques normales veulent venir. Mais il faut faire ses preuves en tant qu'alternative si on veut changer le monde. Voilà.
On fait signe qu'il faut terminer. Oui, ce que je voulais dire.
Je vais poser une dernière question.
Je termine d'abord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que chez toutes les personnes qui se sont lancées dans les premiers SEL, il y avait une idée justement de créer des réseaux, des réseaux de gens qui soient à la fois consommateurs et acteurs, et qui sont les premiers clients des Cop Bio, etc., avec lesquels ça marchait assez bien. On me fait signe que c'est terminé.
Poser ma dernière question.
Tu peux me la poser en privé. Tu m'en as déjà posé
non,
beaucoup.
Non, je vais pas t'agresser. Voilà. Hein. Je voulais simplement que tu précises, comme tu as dit, quand on t'a demandé que s'il y avait des adhérents de l'âme, et tu as dit il y avait des adhérents en temps. Alors, je voulais pas savoir le nombre, mais j'étais un peu surprise que tu dises qu'il y avait des adhérents de temps, dans la mesure où dans le projet du SEL, vous n'aviez pas envisagé au départ d'avoir des adhérents de temps, mais des adhérents. Voilà. Donc, d'accord. Bon. Alors, il y a une trentaine d'adhérents à l'âme, et ce sont des adhérents de temps, c'est ça?
Non, il y en a la moitié qui cotise en temps, plus de la moitié.
Effectivement, excuse-moi, je fais la malgache.